France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Et ce matin, retrouvailles avec Anne Sylvestre qui fête 60 ans de chansons de la façon qu'elle préfère, sur scène à Paris dans quelques jours. Une occasion de revenir sur le temps de la colombe et du cheval d'or, sur François Robert, les frères Jacques et tous ses compagnons d'une route poétiquement jalonnée de chansons. Anne Sylvestre dans ce micro dans un instant. Enfin, d'émission La Chronique de Serge Laïc sur les grands arrangeurs. Aujourd'hui, Jean-Pierre Sabar, mais pour commencer à l'heure de la mondialisation, je vous propose une petite leçon. Son de chinois.
Un Français de bonne mine rapportait de son voyage en Chine mille souvenirs très précieux. Sur le langage étrange de ses fils des cieux, il paraît qu'un jour de fête, il alla muni d'un interprète, présenter ses voeux à trois mandarins, avec lesquels il voulait bavarder un brin. À la porte, dès qu'il apparut, les trois mandarins juste à terre s'inclinèrent en un profond salut, et d'une même voix lui récitèrent: Ding ling ling fucheo, c'est chouen et pechili sankeo. Ping e pong e wing e wong e ho wan po, uche u cinta o, uche u cinta o, e sing e pao sing e su che u fei fu, e toc, un point c'est tout. Cette allocution abstraite, ayant paru claire à l'interprète, il dit simplement d'un ton pénétré, voici la traduction, l'on vous a dit, entrez. Quoi, c'est tout? Dit le français surpris, un seul mot traduit leur parabole. Lors croyant qu'ils n'avaient pas compris, les mandarins reprirent la parole. Ding ling ling fucheu, c'est chouen et pechili hankeu. Ping e pong e wing e wong e ho wan po, ucheu cintao, ucheu cintao. E sing e pao sing e sucheu fei fu, et toc, un point c'est tout. Notre français d'un palette s'avança devant les toits célestes. Mais comme il allait répondre au salut, d'une commune voix les mandarins firent « U ». Interprète, expliquez-moi donc, qu'est-ce encore que ce « U » veut dire? L'interprète se gratta le menton et dit « Voilà monsieur, je vais traduire. Cher ami au blanc visage, un bon vent amène à nos rivages. La nature en joie fête l'étranger, car voici la saison où fleurit l'oranger. Nos épouses mandarines sont là-bas dans la chambre voisine, excepté la femme de Ping-Pong-Té, elle n'a pas pu venir, elle est indisposée. Le docteur est venu mais il n'y a rien vu, d'ailleurs on sait qu'il n'y a jamais rien connu. C'est un vieillard têtu, d'ailleurs il est cocu, et puis n'en parlant plus, tout ça est superflu. Ami au blanc visage, sois le bienvenu, oui tout cela se dit.
Eh oui, c'est compliqué le chinois. En tout cas, les connaisseurs auront reconnu l'orchestre de Ray Ventura et plus spécialement ici Paul Misraki qui a écrit le texte, composé la musique et interprété cette chanson Les Trois Mandarins en 1935.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Quant à mon invitée ce matin, quand elle était venue pour la première fois, voici quelques années, je m'étais dit quand même, il va bien falloir qu'elle revienne parce que une vie si riche, ça ne se raconte pas en une émission. Et ben voilà, l'occasion est arrivée, elle fête dans quelques jours ses 60 ans de chansons. Nous sommes ce matin en compagnie d'Anne Sylvestre.
Personne va me casser les pieds, a dit Violette à son boucher qu'il a toisé de ses lunettes. Et pour la petite dame, ça sera quoi? Où ça la petite dame? J'en vois pas. C'est pas une petite dame, Violette. 80 ans et des poussières, plus de 20 fois arrière-grand-mère, votre dédain lui fait pas peur. les quelques années qui lui restent. Elle veut les vivre à fond la caisse, elle aime pas les rétroviseurs. Et c'est pas un marchand de barbac qui va lui casser la baraque. La 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 la. Venez pas dire que c'est gentil, que c'est un terme de sympathie. Gardez votre condescendance. Savez-vous à qui vous parlez? Ne blessez pas sa dignité, ne la replongez pas en enfance. C'est une dure enfant de la guerre, c'est du chien d'en, pas de la bruyère. Elle a eu faim, elle a eu froid. Elle a grandi coûte que coûte, avec la neige sur la route, les pieds sur des semelles de bois. C'est pas un professeur d'histoire qui va lui dire ce qu'il faut croire. La 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 la. Violette, elle a eu peur de rien, elle savait tenir tête aux chiens, aux menteurs et aux imbéciles. Elle a su se jeter à l'eau et repêcher quelques marmots d'une noyade trop facile. Sous sa coiffure en courant d'air, elle a plus de vocabulaire que vous n'en connaîtrez jamais. Pour ce qui est de l'art de vivre, elle en sait plus que tout vos livres. Nommer un arbre, elle le connaît. Et c'est pas un marchand de sornettes qui va lui en mettre plein la tête. La 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 la. Elle a fabriqué des enfants, pas pour en faire des perdants, et elle a côtoyé des hommes. Celui qui la couve des yeux, c'est pas non plus un petit monsieur, il mérite le respect tout comme. Violette, c'est pas une petite dame, elle a vécu sa part de drame, et si un jour elle doit tomber, quand vous la tiendrez dans vos griffes, comprenez qu'elle se rebiffe, vous qui viendrez pour la soigner. Et que c'est pas un marchand de médoc qui va lui dire qu'elle débloque. Mettez-vous bien ça dans la tête, c'est pas une petite dame, Violette.
Bonjour Anne Sylvestre.
Bonjour.
Ça vous exaspère quand on infantilise comme ça les personnes d'un certain âge en disant « ma petite dame »,
oh
etc.
Là là, oui, moi, c'est insupportable.
Insupportable. Au point que vous en avez fait d'ailleurs cette belle chanson. Je ne sais pas si le personnage de Violette vous a mis un peu de vous-même dedans ou vous l'avez vu, cette situation.
Non, vous savez, il faut nous laisser le privilège de l'imagination. Avec les chansons, on crée des personnages et bien sûr, il y a des petits bouts ramassés ici ou là, mais enfin, donc.
Les personnages de vos chansons sont rarement des portraits précis de personnes réelles.
Ça arrive, mais rarement, oui, en effet. Ça n'est jamais autobiographique.
Voilà.
Il faudrait plusieurs existences pour vivre tout ça.
Alors, en tout cas, cette chanson, cette belle chanson, elle est extraite de votre dernier disque en studio, hein, mm-hmm. Juste une femme, avec vos musiciens, en particulier Nathalie Miravette au piano, qui a fait les arrangements. Et elle sera aussi au programme de votre tour de chant dans quelques jours, au 13e art, à Paris.
Oui, j'aurai ma triade avec moi, trois musiciennes.
Trois musiciennes sur scène, Nathalie Miravette, Chloé Hamon, Isabelle Vuarnesson.
Voilà.
Et puis, les arrangements aussi toujours fidèles de Jérôme Charles.
Oui, il se partage les arrangements avec Nathalie Miravette.
Alors, on reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur ces 60 ans de chansons.
Ben oui, ça fait drôle.
Hein. Ça fait drôle. Mais est-ce à dire que ce récital est justement une espèce de parcours dans vos 60 ans
non,
de chansons?
Non, non, non. J'ai pris ce que j'avais envie de chanter.
Ce que vous aviez envie
J'aime
de chanter.
J'aime pas les concepts comme ça. Alors voilà. Cette année-là, j'ai chanté ça, etc. Non, j'ai choisi. Alors là, comme c'est un petit peu particulier, je n'ai pas un nouvel album à proposer. J'ai deux nouvelles chansons quand même.
Oui.
Donc, j'ai été choisir ce que j'avais envie de chanter, ce que nous avions envie de présenter en scène. J'ai beaucoup choisi aussi avec Nathalie. Et évidemment, quelques-unes des chansons que les gens attendent.
C'est quand même un peu obligé dans un tour de chant.
En général, je leur dis ça, c'est que chacun de vous repartira sans avoir entendu la chanson qu'il voulait entendre.
Ouais.
Chanson de son cœur. Mais enfin, j'essaye quand même de donner quelques choses connues. Mais j'ai aussi voulu donner leur chance à des chansons que je pense complètement méconnues. J'en ai fait quand même beaucoup. Il y en a que j'aime et qui n'ont jamais attiré l'attention. Alors j'essaye de mettre un petit coup de
promo. De leur donner une nouvelle chance.
Oui, c'est ça. Ben oui. Et là, on puisse faire plaisir.
En tout cas, moi, ça me fait plaisir que vous soyez là sur France Musique ce matin.
Ben, merci.
On avait déjà fait une émission ensemble en 2010.
Ouais.
Bon, c'était assez chronologique. Là, aujourd'hui, on va essayer de, voilà, de retrouver certains aspects de ce que vous avez fait, certaines facettes
de
ce que vous aimez.
C'est ça.
Autour de certains morceaux, de certaines chansons.
Oui, allez. Ouais.
Et même un petit peu d'opérette que vous avez choisi.
Oui, hein.
Véronique de André Messager. Duo de l'Escarpolette. In English, Balancette Song. Florestan, Brancato. Hélène de Solange, dites Véronique, Charpigny. Ben, y en a des titres. Ben, attends, tout de même, alors, une bouscule. Il est jaloux. Bref, le décor représente une petite guinguette, un jour d'été. Une guinguette à Romainville. Alors, ce pauvre Véronique, elle est là, elle attend son petit Florestan, j'allais dire Brancato, moi. Elle attend Florestan qui arrive. Il a un joli petit pantalon beige, une petite requimpette mauve à sortir à ses yeux. Moi, j'ai une petite robe blanche avec des cerises. Je vous garderai les noyaux. Au revoir. À toi, Nathan.
Ah, méchante, vous voulez rire.
N'est-ce pas le meilleur paradis?
Vous riez quand moi je soupire.
Vous soupirez, c'est très gentil, ça c'est gentil.
Croyez-moi, je vous en conjure, prenez pitié de mon tourment.
Et ce soir, votre futur, n'en direz-vous pas tout autant?
Ma future?
Et oui, vraiment, votre future, elle m'occupe énormément, la chère créature.
Aura-t-elle vos jolis yeux, le charme exquis de ce corsage?
J'ai eu l'oriental depuis 10 ans, résultat sain, splendide et le tout à l'avenant. J'ai des joues en ce moment, on dirait des pommes d'api. Mon...
C'est ainsi blanc, si merveilleux, et la fraîcheur de ce visage.
Peut-être bien, voyez-vous, ne jurons de rien.
À quitter cet air ironique, croyez-moi, chère Véronique.
Je vous crois. Monsieur Florestan, je vous crois, mais en attendant.
Ah, tu veux que je te balance? Tombe pas, petite, tombe pas.
Oh, il dit tombe pas, petite. Il dit qu'il est de l'île, mes enfants.
Allons, Véronique.
Oh, ben, une seconde tout de même. Bon, bien, je m'assigne, il est marrant, lui.
Poussez, poussez l'escarpolette, poussez pour mieux. Alors, si ça me tourne un peu la tête, tant pis, je veux. Oh, je suis pas bien, mon petit. Oh.
Où sont les scarpolettes?
C'est pas trop fort, écoutez, je vais tomber.
Pour ne pas la froisser,
il y a des orties sur moi, sur les
fesses. Manège, la coquette, en vain, espère me lasser. Espère me mais qu'est-ce qui arrive?
Oh,
qu'est-ce
mais écoute, je suis pas bien, mon petit, c'est parce que j'ai mangé des quenelles.
Oh, oh mon Dieu, des quenelles. Ben, il faut pas manger des quenelles.
Oh,
ne
ben,
mangez pas de quenelles.
Vous êtes marrant, vous. J'ai pas un estomac à quenelles. Mais enfin, c'est une autre chose, ça. Oh, ben, vrai, j'avais su, je serais pas venu à Romainville, je vous jure.
Anne-Sylvestre, oui. vous riez beaucoup.
Ah, mais oui, mais ça, oui.
C'était Charpigny et Brancato,
Charpigny
hein,
et
les
Brancato,
deux grands fantaisistes d'opérettes et de chansons. Oui, vous dites.
Mais non, je les ai vus au Cirque Medrano. J'avais 7 ans, je pense.
Ah oui.
Et ils participaient à un spectacle de cirque élargi, sans doute.
Oui. Ça vous avait marqué?
Mais ça s'oublie pas.
Non, ça s'oublie pas, j'imagine, surtout.
Il y a quelque chose comme ça, quelques œuvres qu'on retient.
Voilà, c'est surtout dans ces détournements. Là, c'était en 1938, hein, le duo de l'Escarpolette.
Oui, moi, j'ai vu un peu plus tard.
Vous l'avez vu un peu plus tard, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir que vous aimiez ce répertoire d'opérette, de fantasy, de musique légère.
Oui, je suis pas féru, mais donc...
Vous avez cité aussi, quand on préparait l'émission, Miette, cette jolie chanson d'Alibert, extraite d'une opérette marseillaise.
Ah, ça c'est joli, c'est ma grand-mère alors qui écoutait ça, qui avait des
votre
disques.
Grand-mère alsacienne?
Non, ma grand-mère bourguignonne.
Ah voilà. Et elle écoutait beaucoup d'opérettes?
Ben oui, elle avait des disques, et j'écoutais évidemment, ça agrémentait les vacances.
En tout cas, vous m'aviez dit qu'il y a une époque peut-être où vous étiez obligé toujours finalement de mettre des chansons comiques aussi dans vos tours de chant, mais qu'il y a une époque où vous aviez peur que ça prenne trop de place. Et aujourd'hui, finalement, vous aimez bien revenir sur cet aspect aussi fantaisiste de votre propre répertoire.
C'est-à-dire qu'au début, je les méprisais carrément, mes chansons drôles. Quoi.
Mais ça marchait.
Mais oui, bien sûr, justement, elles marchaient. J'avais envie d'insulter les gens. Quoi ? Vous ne les aimez pas, les autres chansons, les belles ? Et un jour, je me suis aperçu que c'était très utile, d'une part, dans un tour de chant, et puis qu'en faisant rire, on pouvait dire des choses très, très intéressantes et importantes.
Voilà, donc c'est une évolution intéressante. Il faut prendre l'humour au sérieux.
On apprend les choses sur le tas. Mais c'est bien, c'est vrai qu'avec de l'humour, on peut faire passer quand même pas mal de choses.
C'est pour ça que vous aimez aussi Raymond Devos ?
Ah oui, j'ai beaucoup, beaucoup suivi et aimé Raymond Devos.
Et puis, alors, il y a ce fameux duo, je ne sais pas si on aura le temps de l'écouter aujourd'hui, c'est vrai qu'il circule partout sur Internet, duo avec Bobby Lapointe.
Oui, mais ça, c'est... tout d'un coup, quelqu'un découvre ça et...
Depuis le temps que j'attends le Prince Charmant, de duo, d'amour...
Oui, mais ça n'avait pas... il y avait, à cette époque-là, des duos d'amour partout, et je me suis dit, tiens, je vais écrire un duo d'amour, et avec qui je pourrais bien le chanter. Et j'ai cherché un des copains dans les cabarets avec qui je pourrais le chanter. Ça aurait pu être Riss et Barrier, ça aurait pu être Roger Rivard, puis Bobby était là tout à fait favorable. Donc j'ai enregistré ça avec Bobby Lapointe. Mais c'est pas un événement, c'est pas un exploit. On a fait une chanson. Et puis cette chanson est véritablement de moi.
Vous le connaissiez bien, Bobby ?
Mais oui, on était copains de cabaret. Copains de cabaret, ça fait drôle. Mais...
Ah oui.
Bah oui, on était allés au Cheval d'Or, au Port du Salut.
Ça finissait par former des petites bandes, tous ces gens qui
heureusement,
passaient là.
Parce que vous savez, on se croisait. Comme on était obligé de faire 3 ou 4 cabarets par soirée si on voulait manger un peu. Ouais. On se croisait, on se retrouvait, on se dit sur le chemin. Et alors, comment ils sont ? Ah, il y a du monde là, etc.
Il n'y avait pas de concurrence à celui qui allait mieux marcher que les autres ?
Non. Bon, marcher ou pas, non.
Alors, la fantaisie, l'humour, vous l'avez dit, vous aimez ouvertement ça aujourd'hui, à preuve que vous en avez enregistré à 4 dans votre disque Carré de Dames, quelques-unes de ces chansons drôles, et notamment « Ça ne se voit pas du tout », reprise d'une chanson de 2000.
Oui, drôle, mais ça
grince. Oui, elle a quelque chose de drôle.
Oui, oui, mais avec Agnès Bill, c'est magnifique comme duo. Et là, il faut citer quand même que dans ce disque, cet ouvrage-là, nous étions avec 2 pianos, deux pianistes, Nathalie Miravet et Dorothée Daniel, donc Agnès Bill, chanteuse, et moi. Mais les pianistes chantaient aussi. Enfin, on a fait tout un... C'était bien agréable à faire, cette aventure.
Les enfants des chômeurs, des sans-abri, des érémistes reçoivent le meilleur de ceux qui passent sur nos listes. Couverts de pieds en cap, de vêtements de grande marque, fini le handicap, et bien malin qui les remarque.
Ça gêne beaucoup moins, et quand ils se lavent les mains, je vous jure, on s'y tromperait, on dirait des enfants, des vrais.
Ça ne se voit pas du tout.
Pas du tout.
Ça ne se voit pas du tout.
Ça ne se voit pas du tout.
Pas du tout.
Ça se voit pas du tout. Ces gens dans le métro qui nous imposent leur musique, ou ceux qui parlent trop en recherchant le pathétique. Jamais vous ne croiriez qu'ils sont vraiment ce qu'ils prétendent. Ils sont bien habillés, il y en a qui sentent de la lavande.
Leur faire la charité, moi j'aurais peur de les vexer. Entre nous et bien franchement, ils sont pauvres ou ils font semblant.
Ça ne se voit pas du tout.
Pas du tout.
Ça ne se voit pas du tout.
Pas du tout.
Ça ne se voit pas du tout.
Pas du tout.
Ça ne se voit pas du tout. Mon épicier m'a dit qu'autrefois, dans le voisinage, il y avait des taudis qui déparaient le paysage.
Il devait s'y passer les choses que l'on imagine.
On ne pouvait laisser proliférer cette vermine.
On les a remplacés par des immeubles polissés, ce qu'on a fait des habitants bas.
Ils sont logés depuis longtemps.
Ça ne se voit pas du tout.
Ça ne se voit pas du tout.
Pas du tout. Ça ne se voit pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Ma fille a fauté, j'ai failli la mettre à la porte, mais j'étais révoltée à la seule idée qu'elle avorte.
Il y a des endroits où l'on peut arranger les choses, et tout le monde croit qu'en ce moment elle se repose.
Elle a eu son bébé, il était bien un peu foncé, mais tout de même assez mignon.
Ce sera mieux pour l'adoption.
Ça se voit pas du tout.
Pas du tout.
Ça se voit pas du tout.
Pas du tout.
Ça se voit pas du tout. Pas du tout. Ça se voit pas du tout. Mon fils, qui est très beau, va bien se décider, j'espère, à reprendre le flambeau de la famille et des affaires.
Oh, il n'a pas l'air pressé de rechercher le mariage.
J'ai beau lui présenter des jeunes filles de son âge, il n'y a que des garçons qui viennent le voir à la maison.
Mais s'il avait des coups pervers,
bah, je le saurais, enfin, je suis sa mère.
Ça ne se voit pas du tout.
Non, pas du tout.
Ça ne se voit pas du tout.
Ça ne se voit pas du tout.
Ah, pas du tout.
Ça ne se voit pas du tout.
Je suis sollicitée par les œuvres de la paroisse.
Je suis trop occupée pour éprouver la moindre angoisse.
Je me lève très tôt pour attraper la première messe.
Puis dans les hôpitaux, je vais secourir les détresses.
Oui, j'aime mon prochain et je m'applique à faire le bien, car j'ai un cœur très généreux, mais j'ai l'impression, c'est curieux,
ça se voit pas du tout.
Pas du tout.
Ça se voit pas du tout.
Pas du tout.
Ça se voit pas du tout.
Pas du tout. Je comprends pas du tout.
Ça ne se voit pas du tout. Pas du tout. Ça se voit pas du tout.
Ça se voit pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Ça ne se voit pas du tout dans le disque Carré de Dame, oui. Anne Sylvestre avec Agnès Ville.
Oui.
Quand on vous reçoit, Anne Sylvestre, de toute façon, il faut toujours beaucoup parler de vos amis parce qu'ils sont très présents, hein, dans votre vie, que ce soit ceux de votre génération, les plus jeunes, les beaucoup plus jeunes qui adorent vos chansons. Il y a quand même une bande autour de vous et il y a notamment Agnès Ville qui est
oui.
très présente.
Et alors, il faut dire qu'elle est au Forum Léo Ferré.
Ce week-end.
Oui, voilà. Et lundi encore, je crois.
Voilà. Et elle fait la mise en
scène.
Elle
me fait la mise en scène, la mise en place de mon spectacle. Elle est assistée d'ailleurs par une jeune chanteuse qui s'appelle Mèche.
Voilà, une amitié
oui,
les tribus tiennent le coup. Ce qui est amusant aussi, c'est que dans ce milieu qu'on associe plutôt à une forme de bohème, il y a quelqu'un aussi qui vous a influencé, mais alors qui vient tout à fait d'autre chose, c'est-à-dire du milieu du scoutisme, qui est Francine Coquempeau.
Oui, Francine Coquempeau, bien sûr.
Qui a écrit Colchic dans les prés, que tout le monde connaît, mais qui était aussi, voilà, qui a un petit peu amené cet art de la chanson.
Tout le monde
féminin.
Croit que Colchic, c'est un traditionnel, mais elle a écrit un tas de très belles chansons. Et en effet, c'était avant. Moi, j'ai fait du scoutisme à l'époque. Si on faisait pas ça, on sortait pas de chez soi le samedi.
Et on chantait beaucoup chez les guides.
Comme j'aimais chanter, j'ai dirigé les chorales, j'ai chanté beaucoup. Et donc, Francine, j'ai appris comment était faite une chanson en écoutant les chansons de Francine Coquempeau. Et je trouve qu'on ne lui rend pas assez hommage.
On a évoqué alors tous ces gens que vous croisiez dans le monde des cabarets, des cafés chantants, etc. de cette époque. On va en évoquer d'ailleurs quelques-uns. Mais les frères Jacques, c'était des proches ?
Oh ben c'était des copains, oui.
Moi, malheureusement, le dernier vient nous quitter il n'y a pas très longtemps, Paul Touraine. Vous êtes connu comment ?
En allant les écouter.
Ouais.
Les gens, on se connaissait, mais on allait écouter les autres. On passait du temps, quelquefois, on avait des repas comme ça, comme avec Raymond Devos. J'allais l'écouter tout le temps à Bobino et on se retrouvait. Et après, quand on a commencé à faire un petit peu des salles, en province, des petites salles, des choses comme ça, on trouvait souvent un message du précédent.
Ah oui.
Quelqu'un qui laissait un petit mot
sur la glace. Pour le chanteur suivant.
Oui, c'est ça. Oui,
ah c'était joli.
Oui, c'était bien. Mais les frères Jacques, en plus, je les ai pas mal vus parce que j'avais un ami qui était journaliste au Progrès de Lyon qui s'appelait Gilbert Château et qui était un fan intégral des frères Jacques. Donc, j'allais aussi les écouter avec lui. Et puis, les frères Jacques ont chanté beaucoup de chansons de Rissé Barrié.
Voilà, j'allais dire, ben justement, oui. Celle qu'on va entendre, c'est Rissé Barrié.
Ah, ben oui.
Moi, j'adorais Rissé Barrié.
Mais oui, Rissé Barrié.
Et c'était un proche aussi, lui.
Mais on était dans les mêmes cabarets.
C'est-à-dire les gens de la Colombe, du Cheval d'Or et
du Port du Salut, de Moineau. Il y avait la Contrescarpe, il y avait Nicole Buissonnière. Enfin, bon, on se voyait parce qu'on était de la même fournée. Et puis, s'il y en avait un qui était en retard, c'était l'autre qui passait. C'était bien.
Alors là, c'est Rissé Barrié qui a écrit la chanson avec son ami Leloup.
Leloup Bernard.
Toujours,
Leloup.
Bernard
oui.
Leloup. Et ce sont les frères Jacques qui chantent « N'insistez pas », Stanislas.
Oh, j'adore.
C'était en hiver et déjà tombait la nuit. Quand elle arriva, il lisait Paul Géraldine. Elle lui dit bonjour en soulevant sa voilette et sur son défi voltiger sa houppette. Adorable sous les plumes de son chapeau, elle ruisselait dans un manteau d'oslo. Il se pencha pour baiser sa main opaline, mais lorsque ses lèvres se firent plus câlines, en soupirant elle murmura d'une voix lasse: oh, n'assistez pas Stanislas. Il la fit asseoir sur son beau divan chinois,
la 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 la, tout contre moi.
Sa peau de satin, copain, copain. Elle avait gardé ses plumes et son chapeau, mais déboutonné le manteau d'oslo. Ses yeux plongeaient dans ses yeux couleur d'ambre gris. Protesta.
Je suis affreuse aujourd'hui. Oh non, quelle audace, non. N'assistez pas Stanislas.
D'une voix douce, elle lui fit une proposition.
Faisons, voulez-vous, une partie de Mahjong.
Mais bientôt le vieux coucou sonna quatre fois, effarouchée, elle quitta le divan chinois. Elle remit en ordre ses plumes et son chapeau, et reboutonna le manteau d'oslo. En la suppliant, il la reprit par la taille. Elle se dégagea en lui disant
bye bye.
Seul comme un idiot, je me suis vu dans la glace. N'insiste pas Stanislas. Oh non, n'insiste pas Stanislas.
Les Frères Jacques avec l'orchestre de Jean-Michel Defaille, excellent comme toujours. Oui. Anne Sylvestre, enfin vous c'était François Robert, c'était pas mal non plus. On va y revenir dans un instant, mais ça donc voilà, ce sont les bandes qui se croisaient dans les cabarets où vous avez commencé vous en 57 je crois, à la Colombe.
En novembre 57.
En novembre 57, la Colombe aujourd'hui disparue, Colombe, mais qui se trouvait Île de la Cité. Et c'est là d'ailleurs qu'un, je crois qu'un guitariste classique
oui.
qui était là, vous a donné vos premiers rudiments de
oui,
guitare.
Michel Morin. Oui, parce que moi, je connaissais quatre accords, hein, à peu près.
Ouais.
La guitare, c'est merveilleux, parce qu'avec quatre accords, on peut déjà s'accompagner, on peut déjà faire quelque chose. Mais comme il y avait ce guitariste classique qui jouait tous les soirs avant le programme, à chaque fois, il me disait « Non, regarde, tu mets tes doigts comme ça, tu vas voir, c'est plus joli. » Alors, il m'apprenait des accords.
Eh oui, parce que Michel Valette, le patron de la Colombe, vous avez un peu obligé à vous lancer. Vous vouliez juste écrire des chansons.
Non, ben non. Enfin, je voulais juste écrire. J'ai écrit des chansons,
oui.
Mais j'avais vraiment envie de les chanter parce que j'ai toujours su et pensé que les chansons, c'est pas fait pour rester dans un tiroir.
Oui.
Donc, non, comme je chantais un peu à la Vieillée, au Club de Voile, les gens m'aimaient bien et j'ai tenté. Mais Michel Valette, quand je suis allé le trouver, j'avais très peur, quoi, bien sûr.
Voilà. Et puis il a adoré.
En tout cas, je ne sais pas s'il a adoré, mais il a senti qu'il y avait quelque chose à venir.
Et vous avez chanté là, vous avez chanté. Donc on a évoqué le Cheval d'Or et beaucoup d'autres endroits. Mais oui. Est-ce que c'est à la Colombe aussi que Jacques Canetti vous a repéré ?
Certainement. Et c'est grâce à Guy Béard.
Grâce à Guy Béard, qui chantait là aussi.
Oui, Guy voilà. Béard était un peu la tête d'affiche de la Colombe, avec Hélène Martin. Ne l'oublions pas, j'ai eu une immense admiration pour Hélène, je l'ai toujours d'ailleurs.
Nous aussi, d'ailleurs.
Mais c'était magnifique, c'était... bon. Et moi, je restais évidemment tous les soirs, je chantais mes trois chansons en début
dans
de programme.
Dans un silence religieux ?
Pas toujours, les gens étaient un petit peu...
ivres ?
Bah non, si j'étais ivre, Michel Valette allait leur taper sur l'épaule et leur dire « dehors ».
Dehors.
Mais... je restais, puis j'écoutais, évidemment, mes grands prédécesseurs. Et Guy Béard a été très amical et de bons conseils. Et puis c'est lui qui a... D'ailleurs, le jour où j'ai chanté en public la première fois, Guy m'a prêté sa guitare parce que la mienne était désaccordée et pas possible. Et c'est lui qui m'a signalé à Jacques Canetti.
Ah oui, c'est quand même très important.
Ah oui, oui, oui.
Et puis c'est lui aussi, alors, parce que parmi vos anciennes, vos premières chansons, il y en a une que vous aimez particulièrement, vous la citez souvent, c'est Portes d'eau, oui. Et ça s'appelait d'abord La
ça
Terre.
Ça s'appelait La Terre, et Guy, en entendant ça, m'a dit, bah, non, c'est pas un titre, ça, tu devrais l'appeler Portes d'eau, et il a eu raison. C'était... Et depuis, je fais très très attention à mes titres.
Ah oui, vous êtes resté ami avec Guy Béard?
Oh ben, après, de temps en temps, vous savez, des amitiés de métier. On se voit de temps en temps. C'est très rare qu'on ait une amitié sur le modèle de la vie courante. Ou alors, ça peut arriver, bien sûr.
La radio a joué un rôle important aussi dans vos premiers succès, la diffusion de vos chansons, je pense.
Écoutez, le plus beau souvenir, en fait, j'ai deux souvenirs, justement, de radio. C'était un monsieur qui s'appelait Jacques Peuchemort.
Ah oui, bien sûr, oui.
Qui venait dans les cabarets nous enregistrer et qui faisait ses émissions. Et cet homme était vraiment formidable. On le voyait souvent et enfin, il passait dans tous nos cabarets, il diffusait nos chansons.
Enregistré oui. Sur place alors?
Oui, 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 il venait avec le matériel et puis il enregistrait les chansons. Jacques Peuchemort, ne pas l'oublier. Et Luc Bérimont. J'ai fait partie de la troupe de Luc Bérimont. J'ai fait une tournée avec lui. On faisait ça s'appelait des jam sessions chansons poésie.
Ah oui.
Et on était quelques-uns sur scène.
J'ai vu ça dans les feuilles de Lina. Effectivement, il y en a eu beaucoup.
Oui, avec Hélène Martin, avec Jacques Doyen, avec Jacques Marchais, avec enfin des gens qui se renouvelaient. On faisait des espèces de matchs, quoi.
Alors c'est très loin de ce qui est arrivé quelques années plus tard, à partir de 60, 61 sur 62 surtout, c'est-à-dire les grandes salles. Les premières parties, à Bobino, à l'Olympia, etc. Là, c'était carrément autre chose.
Bah, c'était anecdotique. C'était une fois comme ça.
Ah oui.
À l'Olympia, j'ai chanté trois chansons, levé des rideaux, enfin quatre, parce que j'ai...
Avant Gilbert Bécaud.
Oui, c'est ça, pendant six semaines, ce qui était quand même une chance inouïe.
Avec et la même... Des phoques, des acrobates.
Il y avait, derrière moi, il y avait des phoques. Oui, c'est très impressionnant. Mais la même année, quelques mois plus tôt, j'étais passé à Bobino aussi, en levé de rideau de Jean-Claude Pascal. Et j'ai eu de très bons souvenirs de Jean-Claude Pascal, qui était très amical.
Ça, c'était quand même une marche supplémentaire par rapport au cabaret de la Rive-Gauche, tout ça.
Oui, mais ça veut dire que c'était une fois tous les temps. Après les cabarets, il arrivait qu'on fasse des salles un petit peu plus grandes. Et il y avait les maisons de jeunes, un organisme qui s'appelait Travail Culture, il y avait l'UNEF, etc. Enfin, on faisait des petits lieux, quoi.
Partout, tout le temps, et mais avec toujours des nouvelles chansons, bien sûr. Alors là, on va faire un petit saut dans le temps avec une autre chanson que vous aimez beaucoup, je crois, c'est Carcasse.
Ah ben, c'est...
Je l'ai écoutée, je la trouve merveilleuse.
C'est quelle version vous avez là?
Alors c'est la version d'origine.
Sûr qu'on ne s'est jamais quitté depuis ce jour fleuri de roses, où sans y comprendre grand chose, toi et moi on a débarqué. On a grandi sans y penser, je t'ai fait prendre quelques bûches, tu m'as évité les embûches, des lunettes et des bras cassés. La fièvre, moi, je l'aimais bien, quand tu me collais des angines, je voyais des dragons de Chine s'agiter sur mon papier peint. Carcasse, sait-on bien comment ça se passe? On occupait la même place, on ne sait jamais rien. Sans blague, mes souvenirs sont dans le vague, comme les branches qu'on élague à l'arbre où on s'est balancé. J'ai commencé par deviner, en arrivant vers 15-16, à sentir un certain malaise, qu'on n'était plus bien accordé. Toujours on se contrariait, tu dévorais, je t'ai frugal et je nourrissais tes fringales en rêvant que je m'envolais. Un mauvais jour j'ai découvert ton grand nez, j'ai trouvé ça moche, mais tu m'as dit, pauvre caboche, regarde un peu, tu as les yeux verts. Carcasse, on s'épiait devant la glace, j'avais les peurs, toi les audaces, on ne pouvait rien. En somme, c'est moi qui me méfiais des hommes, et toi voix qui les désirait comme une grand voile à ton voilier. J'espère qu'à notre chemin, il n'y a qu'une moitié de fête. Je nous vivrai bien d'autres fêtes, je te ferai marcher plus loin. J'espère encore te changer, j'essaie toujours, mais tu renacles et tu me bâtis des obstacles où je ne peux que trébucher. Mais même sans viser trop haut, je veux que tu sois vieille bête, au moins aussi bien dans ma tête que moi je suis bien dans ta peau. Carcasse, faut que tu marches, que tu casses. Mais si je te regarde en face, il n'y a pas de quoi prendre peur. T'existes, et puis t'es pas tellement triste, surtout depuis que tu résistes au vent qui malmène les fleurs. On a beau savoir qu'il faudra que toi et moi on se sépare, vois-tu, j'ai de la peine à croire qu'un jour ça nous arrivera. On peut essayer si tu veux de repousser plus loin la cible. Moi je ferai tout mon possible, mais faudra que tu m'aides un peu. Et quand tu arriveras au bout, pourvu que ça soit moi qui veille, on s'arrangera bien ma vieille pour résister encore un coup. Carcasse, on n'y peut rien, les années passent. Toi, le temps laisse des traces et je sens que je change aussi. Avance, ton arme à toi c'est l'espérance. À chaque jour qui recommence, on recommence notre vie. Carcasse, depuis longtemps quoi qu'on y fasse, et jusqu'à ce qu'on se défasse, tu restes ma meilleure amie.
Carcasse d'Anne Sylvestre, une chanson de 1981 qui ensuite, bah, comme il est dit dans la chanson d'ailleurs, a vécu beaucoup d'autres vies. Parce que j'ai remarqué, Anne Sylvestre, que les chansons que vous reprenez régulièrement, vous les réenregistrez parfois en live, etc. Et j'ai l'impression que vous avez une préférence pour les versions les plus récentes, comme si les chansons évoluaient toujours vers le mieux.
Oui, enfin les plus récentes, oui, mais c'est surtout que quand on fait une première, un premier enregistrement, malheureusement, les nécessités commerciales font qu'on les enregistre très tôt, ouais. Et on n'a pas encore eu le temps de les roder, de les assouplir, de leur donner de la vie, leur donner...
Et ça, ça se prend que sur scène ?
Mais bien sûr.
Que devant le public ?
Oui, oui.
Parce qu'il y a aussi la magie de l'enregistrement. Et quand c'était avec François Robert, par exemple, et ses orchestres, il y avait quelque chose en plus aussi dans
bien
les
sûr,
chansons.
Oui, oui, oui. Mais il était préférable de les avoir chantés déjà, quand même. Oui. Parce qu'on trouve des choses... Quand je faisais des disques dans les premières années, c'est vrai que j'avais la possibilité de les chanter en scène, de temps en temps, avant, et ça les forme, quoi.
Enregistré avec, je le disais, donc des merveilleux musiciens qui vous ont accompagné, et en particulier François Robert. Je sais pas comment vous l'avez rencontré, d'ailleurs.
Ah ben, je l'ai rencontré...
C'est Canetti, pour votre premier disque, qui vous l'a...
Non, c'était pas pour mon premier disque, c'était un peu plus tard. Je crois que c'était... dans mes tout premiers disques, il y a eu quelqu'un qui m'a fait quelques arrangements, qui s'appelait Barthélémy Rosso, Mimi Rosso, qui est un guitariste merveilleux. Et un jour, sur une certaine chanson, je pense que c'était Lazare et Cécile, il m'a dit, écoute, là je me sens pas de taille, mais je crois que tu devrais t'adresser à François Robert pour te faire l'arrangement. Et puis après, on a continué.
Ça a été une amitié immédiate avec Robert.
Ben, oui, enfin, avec beaucoup de respect au départ et de timidité, parce que j'étais quand même une très jeune chanteuse, mais lui était jeune aussi. Comment dire, ça a été mon guide musical, François, et mon premier auditeur, toujours.
C'était plus qu'un arrangeur, hein, quand vous aviez une idée de chanson, une mélodie, que parfois vous lui envoyez, et puis...
Non. Bon, je m'accompagnais à la guitare, et j'étais accompagné par un contrebassiste, toujours. Ouais,
ça, c'était
Henri Drou,
sur scène.
Ouais. Sur scène, et donc... Et à la maison aussi, ce qui fait qu'il les connaissait dès le début. Et j'enregistrais mes chansons sur une cassette... Et j'emportais à François, qui était vraiment mon premier auditeur et le premier juge. Mais il aurait dit non, je ne juge pas, mais bien sûr, car il était extrêmement modeste. Et puis, à partir de ça, il habillait ses chansons.
Voilà, il mettait les touches de couleur.
On se mettait d'accord sur les instruments à prendre. Et puis, je le retrouvais à l'enregistrement et il n'avait jamais fait une seule erreur ni une seule faute d'interprétation. Mais, par exemple, il lui arrivait... On écoutait la cassette, hein. J'apportais ma cassette, bon, il écoutait une chanson, puis je lui disais, ah non, là, tu fais attention, parce que là, j'ai fait une faute.
Ouais.
À la guitare. Il me disait, mais je vais la garder, c'est beaucoup plus joli.
Je rappelle aux jeunes auditeurs que les cassettes, c'était des petites boîtes dans lesquelles ils tournaient des bandes magnétiques.
Ah bah oui, qui faisaient de la musique.
Qui faisaient de la musique. Oui. Mais c'est fascinant parce que Anne Sylvestre, vous qui êtes en pleine activité aujourd'hui, vous avez quand même commencé au temps du 78 tours.
Oui, en mono. Hein.
Et aujourd'hui, ouais. On est dans la dématérialisation. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais c'est comme ça. Et on va écouter une autre chanson que je crois vous aimez bien. Alors, on remonte un peu dans le temps. Celle-là, elle est de 1968, mais on l'écoute dans une version beaucoup plus récente, à la Potinière, en 1995, oui. C'est Richard.
Il s'appelait Richard.
Il s'appelait
Je
Richard.
Tiens beaucoup à mes titres. C'est Il s'appelait Richard.
Pardon, Anne.
On a vu le chef de gare boitillant le long du quai, crier larguer les amarres, un train qui s'en allait. Il y avait comme un rêve dessous sa casquette bleue, et le quai comme une grève roulait des vagues sous ses yeux. Il y avait un enfant qui rêvait souvent, rêvait tout le temps, qui rêvait de voyage, rêvait de naufrage et de vent sauvage. Il s'appelait Richard et dans la marge de ses cahiers, en pensant à plus tard, il dessinait de beaux voiliers. Oh, oh. Il eut 14 ans, déjà ne pouvant rester plus longtemps. Il a pris son bagage, a gagné le large et un équipage. Il s'appelait Richard, il fut le mousse d'un beau voilier, grand comme son espoir, bien plus beau que sur ses cahiers. Oh, oh. Quand on est un enfant, on croit que le vent vous aime vraiment. Mais un jour de tempête, il tomba ses bêtes et finit la fête. Il s'appelait Richard, sa jambe ne s'est pas recollée. Trop tard, c'était trop tard, lui fallut quitter les voiliers. On a vu le chef de gare boitillant le long du quai, crier larguer les amarres à un train qui s'en allait. Je voudrais qu'on lui pardonne et qu'on ne rie pas de lui. Il n'en parlait à personne mais en rêvait toutes les nuits. Et si l'enfant Richard a perdu l'espoir au fond d'une gare, il était mon arrière-arrière-grand-père, moi aussi j'espère. Je suis comme Richard et dans la marge de mes chansons, et comme par hasard je mets des voiliers sans raison.
Anne Sylvestre, il s'appelait Richard à la Potinière en 1995. Vous tenez à vos titres et vous avez raison parce qu'ils sont pensés. Vous nous l'avez dit juste avant d'ailleurs, bien recherchés, calculés, millimétrés. Et là, c'était donc avec l'accompagnement de piano de celui qui a été votre pianiste pendant très très longtemps, quand vous avez un petit peu laissé la guitare, Philippe Davenay.
Philippe Davenay, oui.
Voilà. Qui n'est plus aujourd'hui, mais qui est resté un ami et qui...
Ah, et qui continue à jouer avec... Il est à Rouen, il a une activité musicale très, très intense.
Alors, mais ça a été une décision importante, le passage de la guitare au piano dans les années 80, 86 exactement.
Ça. Ah oui, c'était, ça s'est fait. Déjà, François Robert me le conseillait beaucoup, il me disait, débarrasse-toi de ce meuble.
La guitare.
Oui, parce que ça me, c'est vrai. Comme j'étais pas très bonne guitariste, donc il y avait des gens qui s'accompagnaient beaucoup mieux que moi, et j'étais gênée, quoi. J'étais un peu honteuse. Et puis j'avais envie
d'être plus libre sur scène.
C'est ça, ouais. Oui, d'interpréter.
Oui.
Ça s'est fait à l'occasion du spectacle que j'ai joué avec Pauline Julien, qui s'appelait Gémeaux croisés.
Et Julien, Philippe, je veux dire, grand ami par ailleurs.
Oui, et Philippe Davenay a été justement de cette aventure. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble.
Voilà, et vous avez continué jusqu'à une époque récente. Et aujourd'hui, donc, c'est Nathalie Miravette
qui continue
à vous accompagner au piano. Alors, Anne Sylvestre, je n'étais pas sûr de vouloir parler aujourd'hui des Fabulettes, mais il se trouve que Romain Couturier, qui nous aide beaucoup à la discothèque centrale, m'a dit « Je veux absolument... » que tu demandes à Anne-Sylvestre si on peut passer une chanson que j'écoutais tout le temps quand j'étais petit.
Laquelle?
Ça s'appelle « Dans ma fusée ».
Ah.
C'est son enfance, c'est sur ses meilleurs souvenirs, alors on va quand même
le faire. Oui, il ne faut pas.
Les Fabulettes, ça a commencé dans les années 60, assez vite,
suite,
45 tours, tout de suite. Hein.
Presque en même temps, quoi. J'ai toujours mené les deux répertoires en même temps.
Chanson de création pour les enfants, on peut dire, là aussi un genre qui n'existait pas.
Il n'y avait pas, et d'ailleurs, ma maison de disques, au début, ne voulait même pas les enregistrer, ça ne les intéressait pas. Quoi. Mais non, on a déjà les Fables de La Fontaine, les Contes de Perrault, on a les chansons françaises, etc. Mais bon. Et une fois que j'ai fait le premier 45 tours, les instits que je rencontrais partout me disaient « Mais faites-en d'autres, on en manque
voilà. !» 18 volumes, je crois.
Oui, il y a 18 volumes.
Hein, avec toujours des merveilleux arrangements de François Robert.
Oui.
Mais ce sont des chansons que vous n'avez jamais chantées sur scène.
Non, j'ai jamais voulu.
Sauf peut-être un peu dans un spectacle avec Michel Bernard,
c'était pas,
Lala et le Cirque du Vent.
C'est autre chose, ça. C'est une pièce que j'ai écrite et il n'y avait pas de Fabulette dedans. Et d'ailleurs, je ne figurais pas non plus dans la pièce. Oui, Michel Bernard, vous avez fait l'amitié de jouer là-dedans, oui.
Voilà, mais c'était aussi, disons, tourné vers le jeune public.
Ah, c'était carrément une comédie musicale pour les enfants, oui.
Voilà. Alors, on va écouter tout de suite pour Romain Couturier. Allez. Dans ma fusée.
Ceux qui volent autour de ma maison. La 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 la. Dans ma fusée, j'ai rapporté une fleur sauvage, un oiseau en cage et des champignons aussi bons que ceux qui poussent autour de ma maison. Tout à fait comme ce que j'ai vu dans notre ciel. La 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 la. Dans ma fusée, j'ai rapporté un train électrique, une boîte à musique et un perroquet qui parle aussi bien que tout ce que je connaissais. La 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 la. Loup, aussi vilain que le nôtre quand il fait ouh. La 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 la. Dans ma fusée, j'ai rapporté une institutrice et des exercices de calcul mental, les mêmes que ceux qui m'ont donné tellement de mal. La 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 la. M'a fait la leçon. Si j'avais su ça, j'aurais pas quitté ma maison.
« Dans ma fusée, c'était Tom Sylvestre en 1969 et c'était spécialement pour notre ami Romain Couturier. Anne Sylvestre, vous êtes donc auteur, donc vous êtes écrivain, poète, je ne sais pas exactement.
Non, je suis auteur de chansons. Enfin oui, je suis auteur.
Vous n'avez jamais été tenté d'écrire un roman, souvenirs. Vous êtes la sœur aussi, il faut dire, de Marie Chaix, qui est elle-même écrivain.
Voilà. Chacune son boulot.
Ouais.
J'ai commis un petit livre qui s'appelle Coquelicot et autres mots que j'aime dans une série chez Point, une série dirigée par Philippe Delerme.
Vous n'avez pas été tenté de multiplier les livres, les romans, les récits, puisque vous aimez écrire à votre table.
Mais j'ai pas le temps, moi, j'écris des chansons.
Vous écrivez des chansons, vous assumez ça.
Voilà, mais j'ai quand même écrit un petit livre et on m'a dit, oh, vous écrivez. Oh, mon Dieu, oui, 300, 600 chansons, mais voilà.
Mais vous avez fait des études de lettres quand vous étiez une jeune femme et vous étiez déjà passionnée de poésie.
Oui, c'est vrai, j'aimais bien. Apollinaire, Racine.
Marie-Noël.
Oui, oui. Voilà. C'est vrai.
Et vous avez aussi toujours, je ne sais pas si c'est une chose d'écrivain ou d'auteur de chansons, mais des petits carnets où vous notez des chansons, des idées, des mots.
Oui, parce qu'on est quelquefois pas outillé pour écrire vraiment, mais un petit carnet, on note trois mots et puis on espère le retrouver.
Voilà, et c'est comme ça que naît une chanson, que naît un refrain. Et La Fontaine, il faisait partie de vos poètes favoris quand vous
pas
étiez
forcément.
Jeune fille?
J'ai eu une commande un jour pour un festival, le festival de Grignan. Ouais. Un ami qui s'appelle Jean-Denis Vivien m'avait demandé d'écrire une série de chansons en partant des fables de La Fontaine. C'est-à-dire en m'inspirant, mais de la façon que je voulais, quoi. Pas du tout mettre en musique les fables de La Fontaine, c'était écrire des chansons originales à partir des fables que je choisissais.
Mais ce qui est curieux, c'est que, en même temps, dès vos débuts, du moins une certaine partie de vos chansons, on dit ça aussi à propos de Brassens parfois, avait comme ça quelque chose qui était proche d'une certaine couleur populaire et champêtre française, finalement vous rapprochez naturellement du monde de La Fontaine.
Mais j'étais beaucoup nourri de tout ça.
Oui.
Mais ça m'a bien plu, c'était intéressant. Alors j'ai relu toutes les fables, ouais. Et puis j'en ai choisi, donc je sais pas combien il y en a dans le disque. Et ça a donné l'occasion d'un spectacle également avec Viviane Théophilides, donc voilà.
Monsieur, monsieur de La Fontaine, je vous aborde sans mitaine, mais en me voilant quelque peu, on se protège comme on peut. Monsieur, monsieur de La Fontaine, si je vous semble un peu lointaine, ça vient d'une crainte que j'ai, que vous me preniez pour un jet. Si j'ai ramassé votre plume, une fois n'étant pas coutume, j'ai mis la mienne à ses côtés, mais n'en soyez pas rebuté. Je n'ai qu'effleuré vos volumes, on pourrait dire que nous fûmes de compagnons en fablerie du côté de Château-Thierry. Monsieur, monsieur de La Fontaine, oui j'ai couru la prétentaine dans toutes sortes de chansons, quoique n'étant pas un garçon. Monsieur, monsieur de La Fontaine, on ne met plus en quarantaine l'esprit des filles, vous verrez que vous en redemanderez. Si j'ai parlé cousinage, n'en prenez surtout pas ombrage, ce ne fut pas à vos dépens, vous n'êtes certes pas un pan, vous avez un plus beau ramage, et s'il faut parler de plumage, n'imitons pas Maître Corbeau, on nous traiterait de cabots. Monsieur, monsieur de La Fontaine, si en bonne samaritaine, j'ai défendu à Liboron. J'avais de très bonnes raisons. Monsieur, monsieur de La Fontaine, en tout cas je suis bien certaine que je ne vous ai pas trahi, et j'en ferai la preuve ici. Monsieur, monsieur de La Fontaine, en tout cas je suis bien certaine que je ne vous ai pas trahi, et j'en ferai la preuve ici.
Monsieur de La Fontaine, là, c'était en 1997, oui. Donc Anne Sylvestre. C'est drôle parce que, tout naturellement, on est arrivé à évoquer quand même plusieurs spectacles. Lala et le Cirque du Vent avec Michel Bernard. Vous avez évoqué avec Pauline Julien tout à l'heure,
J'ai mots croisés.
À l'instant, Monsieur de La Fontaine. Donc, il y a quand même comme une espèce d'attirance pour vous, pour quelque chose qui est un peu plus qu'un simple tour de chant, qu'un récital, mais qui est un vrai spectacle écrit.
Oui, bien sûr, mais quand j'ai eu l'occasion, bien sûr, j'ai travaillé aussi avec des gens que j'aime beaucoup, qui s'appellent le Théâtre de la Pie-Rouge,
oui.
À Rouen. Que j'ai connu d'ailleurs à travers mon pianiste.
Votre pianiste rouennais.
Voilà, et on a travaillé ensemble, on a co-écrit une pièce aussi avec eux qui s'appelait Hôtel des éphémères, et dans lequel il y avait aussi des chansons. Enfin, oui, mais le théâtre, c'est très intéressant.
C'est peut-être plutôt ça. Je vous demandais tout à l'heure les romans, etc. Pourquoi les romans? Après tout, il y a le théâtre aussi, il y a l'écriture théâtrale.
Ça m'intéresse, mais bon, on ne peut pas tout faire. Hein.
D'ailleurs, vous aviez aussi... alors là, vous étiez comme interprète, donné une comédie musicale de Jean-Pierre Leonardini.
Oui, c'est ça. Jean-Pierre avait écrit une pièce.
Calamity Jane.
Sur Calamity Jane, mais moi, j'ai écrit les chansons.
Et ça, ça vous a amusé aussi, alors?
Oui, c'était des chansons qui illustraient la pièce. Et
j'étais déguisé en cow-boy?
J'étais pas déguisé, j'étais...
Habillé
en Calamity Jane. Nous étions deux, d'ailleurs, il y en avait une qui était Calamity Jeune, et puis ensuite il y avait moi. Quoi.
Voilà, tout ça on le retrouve en disque, puisque heureusement... c'est assez bien réédité.
Ah oui, et alors justement, c'est le moment, j'allais oublier. Je vais sortir à la fin de l'année un nouveau coffret avec tous les disques.
Ah, tous vos disques,
voilà,
avec les dates de parution, les bonnes
tous,
versions, etc.
Plus en bonus, La Petinière et puis encore autre chose, voilà.
Parce que vous avez, en 1973, je crois, créé votre propre maison de disques.
Oui, j'ai créé ma maison de disques, ma production qui s'appelle Sylvestre.
Voilà, Sylvestre.
Je suis encore diffusé par EPM.
Qui fait tant pour la chanson française,
enfin, voilà.
Bien sûr.
Mais bien sûr, et on va sortir donc un coffret qui est très réclamé par les gens, et avec toute une série de belles photos de David Desremaux, et enfin voilà.
Alors je disais tout à l'heure, il y a la tribu de celles qui sont évidemment plus proches de vous, comme Michel Bernard ou Pauline Julien, et puis il y a la tribu des tout jeunes chanteurs, qui est aussi proche d'Anne Sylvestre. Ouais, on peut citer San Severino, on peut citer Vincent Delerme, on peut citer les Ogues de Barbac,
Yves Jamais,
qu'on a reçu récemment
dans l'émission. Yves Jamais, ne pas l'oublier.
Vincent Dedienne.
Oui, mais il y a aussi des filles.
Mais justement, il y a une fille que vous adorez qui s'appelle Amélie Les Crayons.
Oh oui, j'aime beaucoup.
Dites-nous quelques mots pour ceux qui ne la connaissent pas.
C'est à la fois un elfe, c'est une petite fée, et puis elle écrit aussi des chansons très solides aussi, mais elle a une façon d'écrire, une façon de jouer merveilleuse. Son dernier disque est vraiment une petite merveille, je lui ai dit, d'ailleurs elle s'accompagne beaucoup en tapant les pieds, et c'est très joli.
Son dernier disque, ça s'appelle Mille Ponts, et ça commence par cette chanson qui s'intitule Il y a plus de saison.
Quand tu délaces mon corset, long, quand tu dégrafes mes crochets, plus depuis combien d'heures on y est, le temps lui s'effile au champ, pendant qu'on s'effeuille lentement, et que d'autres fauchent les blés au champ, quand il n'y a pas de feuilles aux arbres, on voit mieux les. Je dis ça, je dis rien. Y'a plus de saison. 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 Je dis ça, je dis rien. Quand on renverse un écossais, fou quand je bois le lait au pichet. Plus il ne vaudrait pas mieux du vin. S'effile au champ pendant qu'on s'étourdit lentement et que d'autres sèment les blés au champ. Quand il n'y a pas de jupe aux gens, ça réchauffe. chauffe les voisins, je dis ça, je dis rien.
Y'a plus de saison, y'a plus de saison.
Je dis ça, je dis rien.
Voilà, c'était votre chère Amélie Les Crayons, Anne Sylvestre.
Oui, il est superbe.
Son nouveau disque qui vient de sortir s'appelle Mille Ponts.
Oui.
Et puis vous en aimez d'autres encore.
Je sais pas, mais c'est difficile parce qu'on en oublie toujours. Mais j'aimerais citer comme ça en vrac quelques gens que je vais écouter, comme Garance, Lucas, Mèche, Lise Martin. Enfin, tout ça, c'est des gens qui travaillent, et puis qui vont chanter dans des endroits impossibles et qui se débrouillent quand même.
En tout cas, c'est amusant parce que je disais tout à l'heure, sans Severino, Delerme aussi, les Ogues de Barbac, vous me disiez, il y a aussi des filles, mais donc il y a aussi des garçons. Ça veut dire que la chanson de femme que vous avez incarnée, créée presque à vos débuts, finalement, elle est entendue aussi par les jeunes hommes.
Mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. Oh là là.
La chanson n'est pas sexuée.
Bon, Ben Mazuek a chanté Les gens qui doutent, enfin, et d'autres. Bon, ils reprennent les chansons et puis ils les font vivre. C'est bien.
Voilà, alors on a compris finalement votre vie aujourd'hui, Anne Sylvestre, elle est ponctuée sans doute plus encore par les spectacles que par les disques. Hein. On a entendu La Potinière en 95, il y a eu en 98 les 40 ans de chansons à l'Olympia, il y a 20 ans. En 2011, un nouveau spectacle à l'Européen qui s'appelait Au Plaisir. Et puis voilà, là on arrive au 13e art à Paris, aux 60 ans de chansons.
Ben oui, ça avance, on n'y peut rien, mais c'est comme ça, donc autant le fêter, quoi. C'est pas extraordinaire, je veux dire, c'est pas un exploit, tout le monde.
Le pari de la chanson aujourd'hui, par rapport à celui de la fin des années 50, il vous fait rêver le monde des cabarets, par exemple, il a complètement disparu.
Il n'y a rien.
Il y a le forum Léo Ferré, et puis il y a aussi la revue Hexagone.
Oui, c'est une revue qui est née voici quelques mois, et qui est une revue magnifique sur la chanson, et remplie aussi de très belles photos, de beaux articles. C'est à l'initiative de David Desremaux.
Ben voilà, alors faute de cabaret, on va lire la revue Hexagone.
Ah ben déjà, ça va instruire.
Donc on va aller vous écouter, bien sûr, dans ce choix de chansons que vous aimez, pas forcément les plus connues. Non. Je ne sais pas s'il y aura le lac Saint-Sébastien dedans.
Ça se pourrait bien.
Racontez-nous le lac Saint-Sébastien.
C'est un lac du Québec que je connais bien. J'avais une amie qui s'appelait Hélène Pedneau, qui était une grande auteure dramatique, grande féministe, grande écologiste, etc. Et qui avait fait des rubriques qui s'appelaient Les paroles du lac.
Ouais.
Ces articles ont été réunis en un livre qui s'appelait Les chroniques du lac. Voilà. Et puis, je suis tombée là-dessus et j'ai, avec ces chroniques du lac, j'ai écrit une chanson. Et elle m'a dit, quand elle a reçu la chanson, elle m'a dit « Ma maudite, t'as tout dit en 3 minutes ».
Ma maudite.
et j'aime beaucoup parce que voilà, ça me rappelle ce lac.
Ben merci d'avoir été avec nous ce matin,
merci à vous.
Anne. On va aller donc vous écouter dans les jours qui viennent, au 13e art,
merci,
à Paris.
Oui.
À bientôt.
À bientôt.
«
Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je ne comprends pas ces humains. Ils sont si pleins de turbulences, je crois qu'ils ont peur du silence. Ils s'imaginent réfléchir, moi je sais ce que ça veut dire. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, oh, je leur expliquerai bien qu'il faut qu'il n'y ait pas un souffle, ou bien l'image se boursoufle, on ne distingue plus le front, le ciel est comme un vieux chiffon. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, elle dit que nous sommes cousins, que les humains sont très liquides, mais ils ne sont pas translucides. Où sont leurs truites, leurs brochets? Il faut croire qu'ils les cachaient. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, sans doute ils n'y comprennent rien. L'eau qu'ils possèdent, ils la salissent, ils y jettent leurs immondices. Et quand elle est bien polluée, disent qu'il faut la purifier. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène. Et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue. Se dit le lac Saint-Sébastien, ils sont étranges ces humains. Quand ils détournent des rivières, ils sont parfois très en colère. Si elles vont regagner leur lit après avoir tout englouti. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je crois qu'ils ne font pas le lien entre toutes les eaux du monde. Moi je sais qu'elles correspondent. Et quand la plus petite flaque, il y a l'espérance d'un lac. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène. Et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, ils se battent comme des chiens. Ils sont chiens quand ça les arrange, et puis se prennent pour des anges. Comme si d'être ce qu'ils sont leur donnait un mauvais frisson. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, ils s'improvisent magiciens. Ils déracinent et ils bétonnent, ils font le vide et ils s'étonnent que les saisons aillent de travers et que s'étende le désert. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène. Et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue. Se dit le lac Saint-Sébastien, je refroidis, l'hiver s'en vient. Bientôt se formera ma glace, dessous j'aurai toute la place. Pour moi le gel est bienvenu, je n'aime pas les arbres nus. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je vais rêver à ces humains. Ils seront encore là, j'espère, quand mes eaux redeviendront claires. Et que se poseront les huards, pourvu qu'il n'ait pas de retard. Et que près de moi, cette humaine ait traversé l'hiver sans peine, qu'elle vienne avec les oiseaux me parler la langue de l'eau.
Le lac Saint-Sébastien par Anne Sylvestre, que vous pourrez donc applaudir les vendredis 6, samedi 7 octobre, mardi 10 octobre à 19h et puis aussi le dimanche 8 octobre à 17h. Ce sera au 13e art, la nouvelle salle qui ouvre Place d'Italie, donc pour fêter les 60 ans de chansons d'Anne Sylvestre.
Amour divin, ardente flamme, Vénus Adonis, gloire à vous. Le feu brûlant, nos folles âmes, hélas, ce feu n'est plus en nous. Écoutez nos Vénus, Vénus. temps présent, sont pleins et fades, plus d'amour, plus de passion, et nos pauvres âmes malades se meurent de consomption. Écoute, nous venons.
Il nous faut de l'amour et il nous faut du Offenbach avec cette belle Hélène enregistrée en 1952 par Devadasi qu'on vient d'entendre et qui m'avait enchanté dans mes toutes jeunes années. J'en profite pour vous signaler que ce soir à l'Opéra Comique à 20h, justement, vous pourrez redécouvrir la belle Hélène dans le cadre du cycle Ciné Favard. La belle Hélène dans un film de 1956 de Stelio Lorenzi avec une fabuleuse distribution. Jacques Charon, Robert Manuel, Robert Hirsch ou encore la chanteuse Suzanne Lafaille et puis une mise en scène d'époque en costume comme on faisait et ça n'était pas plus mal que ce qu'on fait aujourd'hui, je vous assure. C'est ce soir à l'Opéra Comique à 20h, j'aurai le plaisir de vous présenter cette belle Hélène d'Offenbach. Tiens, d'ailleurs, encore un petit morceau juste pour le plaisir.
Et tout d'abord, ô ville multitude, sachez-le bien, je n'ai pas l'habitude d'être reçu sur un rythme plaintif. Vous auriez dû chanter un cœur à l'air tivif. Le règne de Vénus est un règne joyeux.
Le règne de Vénus est un règne joyeux.
Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux.
Il est gay, soyez gay, il le faut, il le veut.
Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux.
Il est gay, soyez gay, il le faut, il le veut.
La la et tout, la 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 la. 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 Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. La 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 la.
Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux.
Je suis gay, il est gay, soyons gay. Non, ça n'est pas l'hymne de la Gay Pride. C'est un extrait du troisième acte de la belle Hélène d'Offenbach, la Tyrolienne de Paris, ici chantée par Claude Devos. Voilà, la belle Hélène, on y reviendra toutes les semaines si on peut, mais pour l'instant on a rendez-vous, un cher rendez-vous avec notre grand spécialiste des orchestres et autres arrangeurs, monsieur Serge Elaïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Heureux de vous retrouver. On est presque encore à la rentrée là et c'est la rentrée effectivement de votre chronique à laquelle je tiens particulièrement parce qu'on connaît trop mal ces chefs d'orchestre et arrangeurs qui ont fait beaucoup pour la beauté de la chanson française. Aujourd'hui, vous nous parlez de Jean-Pierre Sabart.
Et oui, il se définit d'ailleurs comme un créateur de long et il revendique ce statut. Il a été associé comme arrangeur à Gainsbourg, Jane Birkin, vous avez reçu récemment, Jean Gabin, Françoise Hardy, Hugo Frey, Le Forestier. Alors, plantons le décor, et bien c'est à 8 ans que le tout jeune Jean-Pierre Sabart, natif de Constantine en Algérie en 1933, et bien Jean-Pierre Sabart fait ses premières armes au piano à cette époque-là. Très vite, il se produit en public et souhaite devenir concertiste. Mais Son père, qui était médecin, ne l'entend pas de cette oreille. On entend Jean-Pierre Sabart.
Mon père voulait que je sois médecin. Donc j'ai fait la médecine, enfin j'ai commencé. Et puis je dis à mon père, papa, je veux être pianiste. Il m'a dit, ben écoute, tu seras pianiste le dimanche. Ah, j'ai dit non, je serai médecin le dimanche.
Là aussi, Serge et Laïc, vous me rappelez mes jeunes années, parce qu'il n'y avait pas seulement La Belle Hélène, il y avait aussi Gainsbourg et le film Je t'aime, moi non plus, je me rappelle comme si c'était hier, la balade de Johnny Jane. Je ne savais pas que c'était Jean-Pierre Sabart, alors qu'il avait orchestré, et pas seulement.
Et il avait co-composé avec Gainsbourg cette musique. Et donc, à l'écoute, on a l'impression, effectivement, que c'est un piano désaccordé que l'on peut entendre. Eh bien, en fait, il n'en est rien. Sabart va nous l'expliquer, puisqu'il garde en mémoire avec force détail cette séance d'enregistrement avec Gainsbourg. C'était en 1976.
C'était à Boulogne, studio 92. Le thème, on l'a fait ensemble, c'était la balade de Johnny John. John n'a mis les paroles qu'après. Au départ, c'est un instrumental où j'ai joué deux fois exactement pareil. Et ça a été difficile. Et on croit que c'est le même pianiste. Il y a deux pianistes, moi et moi.
Qu'est-ce que c'est qu'un orchestrateur?
Voilà, vous m'avez posé la question, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je suis arrangeur. Alors, les gens disent, mais c'est quoi arrangeur? C'est quoi arrangeur? Ben, je dis, vous connaissez les chanteurs. Bon, Hallyday, du Mitchell, Florent Pagny, bon, ils chantent. Mais il y a du bruit derrière, quand même. Ils chantent pas tout seuls, il y a du bruit. Eh ben, le bruit, c'est nous.
Voilà.
Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens, oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais. Puis moi je savais, il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. la vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
Eh bien, que de souvenirs, hein, Serge Laïc, Jean Gabin, bien sûr. On en avait parlé d'ailleurs avec Jean-Louis Dabadie qui a écrit les paroles, mais je ne savais pas que c'était encore Sabart, votre cher Jean-Pierre Sabart.
C'est un monsieur que j'adore.
Qui est au piano et qui a fait les arrangements.
Ah. Il a 84 ans depuis 15 jours.
Eh bien, écoutez, on lui souhaite bon anniversaire.
En principe, il est à l'écoute, en principe. Alors, Jean-Pierre Sabart donc, façonne les arrangements de ce tube, ce « Maintenant, je sais » de Jean Gabin. De plus, donc, vous venez de dire, c'était donc lui qui était au piano, comme il le sera d'ailleurs très souvent dans sa carrière d'arrangeur. Il aimait faire les pianos dans toutes ses séances. Eh bien, cette chanson, qui était au départ anglaise, donc adaptée en français, comme vous l'avez dit, par Jean-Louis Dabadie, Jean Gabin ne voulait pas l'enregistrer au départ. Et c'est grâce à ses filles qu'il a finalement accepté et il a leur fait de bonne grâce. Un autre ami de Jean-Pierre Sabart est incontestablement Hugo Frey, un ami indéfectible. Il admire le talent de Jean-Pierre Sabart depuis plus d'un demi-siècle. C'est d'ailleurs lui qui lui a trouvé son pseudo, parce qu'en fait, le nom de Sabart n'est pas le sien. Son vrai nom, c'est Jean-Pierre Guigon. Voilà. Et c'est Hugo Frey qui lui a dit « mais c'est pas un nom d'artiste ». Et grâce à Hugo Frey, bien, il est devenu Jean-Pierre Sabart, qui est en fait un diminutif du nom de sa mère à Jean-Pierre Sabart. Sa mère s'appelait Sabardin. Voilà.
Alors ça s'écrit parfois d'ailleurs avec un R
D,
à la fin ou un D.
Oui, oui. Ben, en fait, c'est Sabart, c'est S-A-B-A-R.
Oui, j'ai étudié quand même.
Voilà, bravo. Pour Hugo Frey, donc, Sabart a arrangé des chansons populaires comme « J'entends siffler le train », »,« Le rossignol anglais », »,« Santillano », et il a composé pour lui des chansons célèbres comme « C'est tout bon, Killy », Jean-Claude Killy, ou « La terre est si belle ».
Et l'océan, les forêts sauvages, les aigles et les loups, de rive en rivage, souviens-toi de nous.
La terre est si belle, Hugo Frey, Evelyne Bugy pour les paroles, Jean-Pierre Sabart pour la musique. Donc on a compris qu'il est arrangeur, chef d'orchestre, pianiste et compositeur.
Et grand compositeur, absolument. Et Jean-Pierre possède une culture étendue de toutes les musiques du monde. C'est un excellent spécialiste des musiques japonaises, sahariennes et autres musiques, ce qui lui a permis d'ailleurs d'écrire des arrangements de toute nature. Compositeur, on l'a compris, avec Gainsbourg, Hugo Frey. Il coécrit aussi avec Maxime Le Forestier la musique du grand succès « Né quelque part ». Et Sabart compose aussi une musique très efficace pour la chanson « Passer ma route », un autre des grands tubes de Le Forestier que je vous propose d'écouter ici dans une version live, guitare-voix, certes moins connue que l'original cette version, mais tout aussi remarquable.
Laissez-les dans les cartons, les plans de la planète. Faites-les sans moi, oubliez pas les fleurs. Quand ces rétroviseurs-là passent par la tête, j'ai du feu sur le gaz et je m'attends ailleurs. Je fais que passer ma route, pas vu celle tracée.
passer entre les gouttes et va des belles. Parole après parole, note après note, elle voulait tout savoir sur ma vie. J'ai tourné cette fois ma clé dans ses menottes, cette fois ma langue dans sa bouche, et j'ai dit je fais que passer ma route, pas vu celle tracée. Passer entre les gouttes et va des belles.
Passer ma route par Maxime Le Forestier, donc chanson coécrite avec Jean-Pierre Sabar et accompagnée à trois guitares en 2002, Serge Elaïc.
Alors Jean-Pierre vient de fêter, on l'a dit, ses 84 printemps il y a quelques jours. C'est un homme discret qui est vraiment attachant. Il a une mémoire d'éléphant sur tout ce qu'il a pu faire et même d'autres choses. Il est capable d'être drôle et même loufoque quand il est en forme. Il signe en l'an 2000 l'un de ses derniers arrangements. C'était pour le couple mythique Françoise Hardy, Jacques Dutronc, dans leur superbe reprise, et je pèse mes mots, de la chanson de Mireille et Jean Nohain, bien puisque sûr. Vous partez en voyage. Jean-Pierre Sabar est également au piano pour l'occasion.
Puisque vous partez en voyage,
vous m'avez promis, mon chéri,
de vous écrire 14 pages
tous les matins ou davantage. Pour que je vois votre visage,
baissez la vitre, je vous prie.
C'est affreux, je perds tout courage.
Et moi je déteste Paris.
Le contrôleur crie en voiture, l'enfoiré, il sait pourtant bien.
Je dois rester, mais je jure que s'il crie encore une fois, moi je viens.
J'ai mon amour pour ce bagage, et tout le reste, on s'en fout.
Puisque vous partez en voyage,
mon chéri, je pars avec vous.
Françoise Hardy et Jacques Dutronc avec les arrangements et le piano d'ailleurs de Jean-Pierre Sabar, que j'étais vraiment très heureux de découvrir aujourd'hui avec vous, Serge Elaïc. Même si je le connaissais déjà par les oreilles, c'est le propre justement de tous ces grands arrangeurs et celui-ci en particulier, musicien merveilleux, un peu autodidacte et quand même avec un métier classique aussi.
Ah oui, bien sûr, il a été au conservatoire en Algérie, il a été aussi au conservatoire en France et il a même été pour l'orgue un des élèves de Maurice Duruflé, tout simplement.
Quand même, bon bah salut en tout cas Jean-Pierre Sabar et merci pour tout ce qu'il a fait. Merci à vous, Serge Elaïc.
Merci à vous, comme chaque fois. Et merci de me recevoir tous les mois.
À bientôt. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui la technique Stéphane Poitevin, Emmanuel Dupuis, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, je vous recommande de ne pas rater la prochaine émission parce que j'ai la grande joie de recevoir un musicien extraordinaire, Roger Delmotte, qui a été un des plus grands trompettistes de la deuxième moitié du XXe siècle à l'Opéra de Paris, mais qui a aussi une vie pleine de souvenirs, même du grand compositeur Gustave Charpentier, de tournées avec Luis Mariano, de musique légère avec Roger. Vraiment un grand artiste à découvrir ou à redécouvrir. Ce sera samedi matin avec Roger Delmotte dans Étonnez-moi, Benoît.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.